Le journal est présenté par Ludovic Piétenu. Bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Plusieurs voix s'élèvent pour débattre de l'islam de France. L'appel aux musulmans à vivre leur foi dans la discrétion par Jean-Pierre Chevènement n'est pas forcément bien passé. L'ancien ministre de l'Intérieur s'en est expliqué. Certains musulmans contestent sa probable nomination à la tête de la Fondation des œuvres de l'islam de France. La police belge peine à mettre la main sur celui qu'elle suspecte d'être le mentor des attentats de Bruxelles au mois de mars. Nous reviendrons sur le parcours de ce Belge avec notre correspondante à Bruxelles, Lakshmi Lotha, la Belgique, qui s'était mobilisée il y a quelques années pour le sortir des geôles irakiennes et qui s'en mord les doigts aujourd'hui. Un effort de Barack Obama vers la réalisation de sa promesse de fermer Guantanamo. 15 détenus ont quitté cette prison. Il en reste tout de même 61 contre 242 quand Obama était arrivé à la Maison Blanche. Et puis nous irons au Yémen où la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite a frappé hier un centre de soins, un nouveau bombardement qui suscite l'indignation, nous dira Eric Biegala. L'islam de France au centre des débats. Si le burkini, vêtement de bain intégral, cristallise l'attention au cœur de l'été, il n'écrase pas les questions non réglées à ce jour de l'organisation du culte musulman et la réflexion sur son financement. Plusieurs voix participent à ce débat. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, pressenti pour relancer la fondation des œuvres de l'islam de France, a donné en 24 heures deux interviews et son appel aux musulmans à vivre leur foi dans la discrétion n'a pas forcément bien été reçu. Déjà, quand son nom avait été émis par François Hollande au début du mois, certains s'étaient étonnés d'un non-musulman à la tête de cette fondation. Au-delà des polémiques, il y avait eu aussi cette tribune de 41 signataires il y a une quinzaine de jours dans le journal du dimanche. Elle s'intitulait « Nous, Français et musulmans, sommes prêts à assumer nos responsabilités ». Antoine Maret a choisi de contacter l'un d'eux pour revenir sur ses propos de Jean-Pierre Chevènement. Majid Si Hossin est un médecin et un militant associatif.
On a quand même été assez surpris de la nomination de Jean-Pierre Chevènement. Non pas que Jean-Pierre Chevènement soit lui-même une tuto personnelle mis en cause, mais sur le fait que sa candidature apparaisse comme ça, ex nihilo, sans qu'on ait cherché ailleurs des gens qui avaient plus de liens avec l'islam pour diriger cette fondation. Il y a probablement des candidatures de valeur qui auraient pu être proposées. Alors là, on voit qu'il commence à s'exprimer comme s'il était déjà président. Donc je pense que c'est relativement acté. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de concertation. Il y a des opinions, des principes qui sont avancés. Donc il semble-t-il de débat, donc il y a peut-être un problème dans la manière dont cela est mis en œuvre quand même.
Parce que vous faites partie des gens qui ont signé donc cette tribune, vous faites partie des musulmans de France qui ont réussi, et vous dites, il n'y a pas de raison, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à nous ?
Tout à fait. Un des travers dans la manière dont on envisage l'islam en France, c'est de penser que c'est un bloc. L'islam est divers et varié, les musulmans sont divers et variés, et si on veut essayer de faire évoluer l'islam de France et de trouver un modèle qui convienne un peu à tout le monde, il faut entendre un peu tout le monde et pas aller chercher des clercs qu'on choisit, qui a quand même été le cas pendant très longtemps, où on nous a choisis comme représentants des islams qui annonnent à peine le français, alors que moi, par exemple, je suis en troisième génération, je ne me reconnais pas du tout dans ça, et je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont une pratique spiritualiste, il y a des gens qui ont une pratique assez détachée de l'islam, qu'on pourrait qualifier de musulmans non pratiquants, mais qui se sentent quand même concernés quand on doit encore essuyer les clichés, les injonctions, les demandes de comportement adaptés, ou qui sont choqués quand on voit qu'on demande à des gens qui sont quand même assez distants de la religion musulmane de l'organiser ou de la diriger et de dire ce qui est bon pour les musulmans. Ça nous ramène à des schémas très très anciens qui réveillent des vieilles blessures.
Le médecin et militant associatif Majid Si Hossin répondait à Antoine Maret. Le burkini jugé indésirable, quand bien même il n'y en a jamais eu sur sa plage, par le député maire Les Républicains du Touquet, Daniel Fasquelle préfère prévenir, dit-il. Il sera le quatrième maire de France à prendre un arrêté pour interdire sur sa commune jusqu'à la fin du mois le port de ce vêtement de bain intégral. En Haute-Corse, à Cisco, où le maire de la commune a fait enregistrer cet arrêté aujourd'hui, eh bien, dans l'état actuel de l'enquête, rien ne dit que l'affrontement de samedi soir sur cette plage corse a pour origine un burkini. L'élément déclencheur, disent cet après-midi les enquêteurs, est inconnu. Un ancien ministre du gouvernement Hollande annonce sa candidature ce soir à la primaire de gauche. Benoît Hamon fera sa rentrée politique dans une dizaine de jours à Saint-Denis. Ce dimanche, c'est Arnaud Montebourg qui pourrait à son tour se lancer. Il est soupçonné d'être le mentor des attentats de Bruxelles en mars dernier, le cousin des terroristes de Bruxelles. Oussama Attar est l'homme le plus recherché de Belgique. La semaine dernière, une série de perquisitions n'a rien donné. Sa mère et sa sœur et une autre personne ont été interrogées puis libérées. L'homme reste introuvable. Selon les autorités belges, il est possible qu'il cherche à se rendre en France. Nous retrouvons Lakshmi Lotin en direct de notre bureau de Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Retracez-nous les débuts du parcours de ce Belge Oussama Attar.
Son parcours est celui d'un jeune qui, après ses études au début des années 2000, décide de se rendre en Irak pour, dit-il, apporter des médicaments à la population irakienne. Mais en 2004, il est condamné à 10 ans de prison en Irak pour absence de papiers en règle alors qu'il traverse la frontière syrienne. Sa famille entame en 2010 des démarches pour le faire libérer, invoquant un cancer du rein. Des manifestations sont alors organisées en Belgique avec le soutien d'Amnesty International et de plusieurs députés. Oussama Attar obtient finalement gain de cause et est libéré en 2012 à la demande du ministère des Affaires étrangères pour raison de santé. En 2013, il est soupçonné de vouloir rejoindre des djihadistes en Tunisie, puis il disparaît des écrans radars.
Libéré pour des raisons de santé, voilà pourquoi, Lakshmi, la polémique grandit en Belgique. Des voix s'élèvent pour critiquer cette libération passée sans laquelle il n'y aurait pas eu d'attentat à Bruxelles.
Oui, le député Alain De Staeks demande l'ouverture d'une enquête sur le rôle de l'ONG et des élus impliqués. Amnesty a pu contribuer à faire libérer un individu dangereux, déjà radicalisé, dit-il. Pour lui, les raisons médicales évoquées à l'époque étaient très probablement erronées. Les personnes qui ont effectué un choix aussi irresponsable devront personnellement répondre de leurs actes, réagit également le président de la commission sur la lutte contre le terrorisme à la Chambre belge. Amnesty International se défend et indique avoir mené une action pour le droit à la santé du détenu et non pour sa libération. Il n'y a pas de réaction pour l'instant des hommes politiques pointés du doigt.
Lakshmi Lotin depuis Bruxelles. Et puis retour prochain en France dans les 7 jours d'un homme dont la disparition avait été signalée au début de l'été au commissariat de Charleville-Mézières. Mourad Hamid, soupçonné d'avoir voulu se rendre en Syrie aux côtés de l'organisation État islamique, a été arrêté en chemin en Bulgarie. Il est l'un des beaux-frères d'un des frères Kouachi, auteur du massacre de Charlie Hebdo en janvier 2015. L'organisation État islamique en Syrie visée par des bombardements russes. L'aspect nouveau de ces frappes, c'est que les avions, les bombardiers Tupolev 22, ont décollé d'une base de l'ouest de l'Iran près de Hamadan, le fruit d'un accord entre Téhéran et Moscou. Côté irakien, l'organisation État islamique est la cible de la coalition internationale en soutien aux forces irakiennes et aux Peshmerga kurdes. Au nord, l'objectif, c'est le fief de Mossoul, la deuxième ville du pays. Ces Peshmerga kurdes grignotent du terrain. Ils ont repris une dizaine de villages ces derniers jours. Oriane Verdier les a suivis à une vingtaine de kilomètres de cette autoproclamée capitale irakienne de Daesh.
Pour rejoindre le front depuis le dernier checkpoint de l'armée kurde, le Peshmerga Abdulrahman parcourt une longue route de terre qui traverse une dizaine de villages déserts.
Daesh était encore dans ces villages il y a 2 mois. Ces ruines que vous voyez, ce sont des maisons frappées par la coalition internationale. Aucune famille n'est revenue, car toutes les maisons sont encore minées. Nous avons simplement sécurisé la route principale pour pouvoir avancer, creuser de nouvelles tranchées et y transférer les troupes pour pouvoir finalement lancer cette nouvelle attaque.
Au sommet de la nouvelle tranchée d'où a démarré l'offensive d'aujourd'hui, un Peshmerga, caché derrière un mur de sacs de sable, Kalachnikov à la main, guette les quelques kilomètres de plaine désertique qui nous séparent des combats.
Le bruit que l'on entend là, ce sont les avions de la coalition qui observent. S'il y a un cas d'urgence, une voiture kamikaze par exemple, ils lui tirent dessus et la font exploser avant que la voiture n'atteigne les Peshmerga. Dans le village que vous voyez devant nous, les véhicules blindés sont toujours en action. Certains ont dépassé le village pour chasser définitivement les troupes de Daesh. Une fois que ce sera fait, nous, moi, les gars de mon équipe, nous entrerons dans les villages pour les protéger face aux attaques de l'ennemi.
Tous les hommes réunis derrière cette tranchée s'apprêtent donc à passer une nuit face à l'ennemi. Tous affirment n'avoir peur de rien, même Miran, qui n'a que 22 ans.
J'ai rejoint les Peshmerga il y a 2 ans à l'arrivée de Daesh. Nous, les Kurdes, sommes habitués à la guerre, mais je crois que les moments les plus durs, ce sont les premières minutes d'une attaque ennemie, ce moment où tu ne sais pas combien ils sont ni de quel endroit ils viennent.
Sur le chemin du retour, seul dans son 4x4, le vieux Peshmerga Abdulrahman se confie lui aussi.
On ne peut pas s'habituer à la guerre. Le pire moment pour un Peshmerga, c'est lorsque tu apprends la mort d'un ami qui était avec toi quelques instants plus tôt. Ici, ton ami, c'est la chose la plus importante. Tu l'aimes comme ton père, ton frère, ta famille. Moi, par exemple, j'étais avec un ami hier soir. Aujourd'hui, il a été tué au front.
Reportage d'Oriane Verdier en Irak, tout près de Mossoul, au Yémen. La coalition emmenée par l'Arabie Saoudite poursuit ses frappes. 9 civils tués près de la capitale Sanaa. Hier, 11 morts, dont un membre de l'ONG Médecins Sans Frontières, suite au bombardement de l'hôpital. Un nouveau bombardement d'un centre de soins, Eric Biegala, qui suscite l'indignation.
Oui, c'est le quatrième dispensaire ou hôpital soutenu par MSF qui est ainsi frappé depuis le début du conflit, il y a un an et demi. L'hôpital d'Abs, dans le nord du pays, partiellement détruit dans la frappe aérienne de ce lundi, était une structure importante en taille, d'autant plus difficile à confondre avec quoi que ce soit d'autre que sa qualité d'hôpital civil était clairement identifiable. Médecins Sans Frontières soutient ainsi dans le pays et des deux côtés de la ligne de front une vingtaine de structures de santé, toutes parfaitement identifiables. Hassan Bousinine est le chef de mission de MSF au Yémen.
Nous, on est constant avec la coalition. On a un officier de liaison qui s'occupe uniquement de ça, qui est basé à Djibouti. On fait des notifications à la coalition qui enregistre tous nos mouvements et bien entendu, toutes nos localités, bureaux, hôpitaux sont enregistrés avec coordonnées GPS, les localités exactes, etc. Les hôpitaux sont identifiés. Il y a une peinture énorme sur les toits avec le logo MSF, etc. Et encore une fois, non seulement on donne nos coordonnées GPS, mais on les révise constamment avec la coalition. Forcément, on est choqué, déçu, et on espère que les choses s'arrangent dans un futur très proche, hein, à partir de maintenant. On peut admettre que sur le nombre total de frappes, il y a des erreurs, mais maintenant, ça suffit.
La coalition arabe emmenée par l'Arabie Saoudite a annoncé hier avoir lancé une enquête d'urgence sur le bombardement de l'hôpital d'Abs. Elle avait reconnu début août des manquements aux droits humanitaires dans deux bombardements en 2015, dont l'un contre un hôpital géré par MSF dans le nord du pays. En droit humanitaire international, le bombardement délibéré d'un hôpital est considéré comme un crime de guerre.
Eric Biegala, ils sont 15 détenus à enfin quitter la prison de Guantanamo, certains enfermés depuis plus de 10 ans. Les Américains organisent le plus gros transfert de l'existence de cette prison, 12 hommes yéménites et 3 afghans vers les Émirats arabes unis. Il reste désormais 61 détenus dans ce camp à Cuba que Barack Obama avait promis de fermer. Nadine Epstein a joint Nathalie Berger d'Amnesty International.
Certainement un signe de la volonté d'Obama de fermer le Guantanamo. Malheureusement, je ne pense pas qu'il pourra le faire d'ici la fin de son mandat. Il restera toujours le problème des 30 et quelques détenus qui ont été déclarés non jugeables, non libérables et qui ne peuvent pas être mis ailleurs. Non libérables parce que potentiellement dangereux, tout au moins d'après les autorités américaines. Non jugeables car toutes les preuves obtenues contre eux ont été obtenues sous la torture et donc il y aurait vice de procédure présentée devant des cours de justice américaine. Donc ces personnes-là sont dans un vide juridique absolument complet. Et le gouvernement américain cherche à les transférer depuis un certain temps sur le territoire américain dans des prisons de très haute sécurité. Sauf que pour Amnesty International, c'est changer le code postal de Guantanamo. Ces prisons de très haute sécurité ont servi de modèle à la construction de Guantanamo. Donc effectivement, on ferme Guantanamo, mais on les transfère dans les mêmes conditions de détention que celles dans lesquelles ils sont aujourd'hui.
Ça veut dire que toutes ces personnes vont rester à Guantanamo ?
On n'en sait rien. Je crois que même le gouvernement américain a du mal à le savoir. En tout cas, sûrement pas avant la fin du mandat du président Obama. Elles resteront là où on voudra bien d'elles.
Donc vous pensez que d'ici les élections, Barack Obama va transférer encore une trentaine de détenus ?
Il faut espérer. Sur les 61, il y en a une trentaine qui sont déclarés en détention continue, non jugeablement libérables. Il y en a 20 qui ont été approuvés pour le transfert. Ces 20 personnes sont majoritairement des Yéménites et c'est impossible de les transférer au Yémen. Il faut leur trouver un pays d'accueil comme ceux qui viennent d'être transférés aux Émirats arabes unis.
Nathalie Berger d'Amnesty International, jointe par Nadine Epstein. Pour refermer ce journal, des menaces de mort, des appels au domicile, des mails anonymes adressés à 2 employés de la CPI, à l'AE, la Cour pénale internationale, où travaillent ces 2 employés d'organisations palestiniennes de droits de l'homme. Une première pour des employés à la CPI. Qui peut vouloir exercer ces pressions ? Récit depuis Ramallah de Nicolas Roper.
Nada Kiswanson reçoit des menaces quasi quotidiennement depuis maintenant 6 mois. Avocate à la Haye pour l'association palestinienne Al-Haq, elle a déposé plainte auprès de la police néerlandaise. La juriste dit craindre pour sa vie ainsi que celle de sa famille. Un salarié d'une autre ONG palestinienne qui travaille lui aussi auprès de la CPI a été menacé dans les mêmes termes. Pour Shawan Jabarin, le directeur de Al-Haq, aucun doute, ces menaces sont liées à la procédure lancée contre Israël auprès de la Cour pénale internationale.
Les criminels ont toujours peur d'être jugés. Ce qui est sûr, c'est que c'est une organisation professionnelle. Ils ne peuvent pas nous combattre sur le terrain des preuves ou des idées, donc ils essaient de faire régner la peur. Ce n'est pas une stratégie nouvelle.
Ils nous attaquent pour nous empêcher de faire notre travail, pour nous effrayer et pour que l'on arrête. Ils veulent qu'on soit inquiet pour notre vie et notre situation de famille.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a refusé de commenter des accusations qu'il juge extravagantes. Human Rights Watch a de son côté dénoncé ces intimidations contre les deux employés des associations palestiniennes de droits de l'homme. L'organisation rappelle qu'il est crucial que ces associations puissent travailler en toute tranquillité.
Cette première à la Cour pénale internationale, reportage de Nicolas Roper. Le temps de demain, mercredi 17 août, une France en trois parties avec l'arrivée le matin d'une dégradation nuageuse par l'ouest. Soleil généreux de la frontière belge à la région centre en passant par l'île de France. À l'est, un temps instable. Température demain matin entre 13 et 19 degrés, 20, 21 degrés dans le sud-est. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 22h, Sébastien Berriot.